Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Abdourahmane Dia et Morgane Guerrier en direct de la capitale américaine. On est lundi 14 janvier 2019. Le Monde aujourd'hui, édition de 18h30 en universel, au sommaire ce soir.
Au Sénégal, le Conseil constitutionnel publie une liste provisoire de 5 candidats à la présidentielle. Karim Ouad, fils de l'ancien président, et Raly Fassal, ex-maire de Dakar, sont recalés.
Manifestation au Zimbabwe contre la hausse des prix du carburant alors que la crise économique s'aggrave.
Au Soudan également, les manifestations contre la hausse des prix du pain se poursuivent. Le président Béchir a assuré que cela n'aboutirait pas à un changement de régime.
Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo propose une zone tampon entre la Syrie et la Turquie pour protéger les Kurdes.
En partie magazine, les réactions à la proposition de la SADC d'un recomptage des voix en RDC.
Ne ratez pas l'actualité économique et les sports, mais tout de suite le journal.
Au Sénégal, le Conseil constitutionnel a publié la liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle de février prochain. 5 candidats ont été retenus. Il s'agit de Macky Sall, Idrissa Seck, Ousmane Sonko, El Hadj Issa Sall et Madi Kenyang. Khalifa Abakar Sall, ancien maire de Dakar, et Karim Ouad, ancien ministre et fils de l'ancien président, ont vu leur candidature invalidée. Le point avec notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Les candidats retenus remplissent les conditions des 9 pièces à étudier par les 7 juges du Conseil constitutionnel. Il s'agit entre autres du certificat de nationalité, de la photocopie de la carte d'électeur biométrique, de l'extrait de naissance datant de moins de 6 mois et de l'extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois. Cette dernière pièce a été fatale aux candidats Khalifa Sall et Karim Ouad. Dans ses motivations, le Conseil constitutionnel considère que la déclaration de candidature de Karim Ouad mentionne qu'il a été condamné le 23 mars 2015 à 6 ans d'emprisonnement ferme par la Cour de répression de l'enrichissement illicite CREI du Sénégal, ce qui rend irrecevable sa candidature. Partant de l'arrêt numéro 001 rendu le 3 janvier 2019 par la Cour suprême qui confirme le verdict de 5 ans prononcé en appel contre Khalifa Sall, le Conseil constitutionnel a déclaré la candidature de ce dernier irrecevable. Les candidatures de Khalifa Sall et Karim Ouad sont ainsi plombées par leur condamnation à des peines de 5 ans de prison ferme ou plus. Les deux candidats recalés ont 48 heures pour faire valoir leur droit de réclamation. À l'issue de l'analyse de ces éventuelles réclamations, le Conseil constitutionnel va publier la liste définitive des candidats à la présidentielle de 2019. Une liste qui ne sera susceptible d'aucun recours.
En Guinée, les cours ont repris dans les écoles primaires et secondaires 4 jours après la signature d'un accord mettant fin à plus de 3 mois de grève.
Le mouvement lancé à la rentrée d'octobre par des syndicats qui revendiquaient des hausses de salaire avait été suivi dans de nombreux établissements avant de connaître un certain essoufflement depuis le début de l'année.
Au Nigeria, le président de la Cour suprême était absent à l'ouverture de son procès pour fraude, ce lundi à Abuja. Walter Samuel Kanu Onogen est accusé de ne pas avoir déclaré des comptes bancaires en dollars, en euros et en livres sterling.
En République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle va commencer à examiner demain les recours contestant les résultats de l'élection présidentielle introduits par l'opposant Martin Fayulu. Monsieur Fayulu est l'un des candidats d'opposition à la présidentielle du 30 décembre dont il conteste les résultats provisoires publiés par la commission électorale, proclamant un autre opposant, Félix Tshisekedi, vainqueur. Martin Fayulu demande un recomptage des voix, une idée appuyée par l'organisation régionale SADC. Nous y reviendrons en partie magazine.
Une des principales radios centrafricaines, Ndeke Luka, est interdite de couverture des activités présidentielles, selon sa directrice. Sylvie Panika dénonce ce qu'elle appelle une entrave à la liberté de la presse. Selon Ndeke Luka, des journalistes de la radio se sont vus refuser l'entrée de plusieurs événements présidentiels.
Première manifestation au Zimbabwe pour dénoncer la forte hausse des prix du carburant décrétée par le président Emmerson Mnangagwa. Le point avec Nani Talani.
Dès l'aube, des centaines de personnes sont venues crier leur colère dans les rues de Harare et Bulawayo, la deuxième ville du pays. Ils ont érigé des barricades et brûlé des pneus, paralysant la circulation. Ils manifestent contre l'inflation. Ces derniers mois, de nombreux produits de base manquent, à commencer par le pétrole. Le président Mnangagwa a lui-même annoncé samedi la multiplication par 2,5 des prix de l'essence afin de réduire la consommation et les trafics liés à la dévaluation de la quasi-devise locale, les bonnotes. Dans un climat social de plus en plus tendu, la mesure a sans surprise mis le feu aux poudres. Des pillages ont été signalés dans un centre commercial à Bulawayo où l'armée a été déployée. La police est aussi intervenue à Harare. La Confédération syndicale du Zimbabwe a appelé la population à arrêter de travailler jusqu'à mercredi afin d'arrêter la mesure du président qu'elle qualifie de folie. Face à l'agitation sociale qui monte, le régime dénonce un plan délibéré visant à saper l'ordre constitutionnel.
Au Soudan, le président Omar el-Béchir essaie de rassurer ses partisans dans un rassemblement au Darfour. Il a affirmé que la contestation qui secoue le pays depuis près d'un mois ne parviendra pas à renverser son régime. Eric Manelakiza.
Devant la foule acquise à sa cause et rassemblée à Niala, capitale du Darfour Sud, M. Béchir a rappelé que la voie des urnes est la seule vers le pouvoir. Réagissant aux premières manifestations antigouvernementales de la veille dans cette région, il a assuré que la contestation ne conduira pas à un changement de pouvoir. La contestation a débuté le 19 décembre à la suite de la décision du gouvernement de tripler le prix du pain. Les manifestations se sont ensuite transformées en une contestation du pouvoir d'Omar el-Béchir. L'association des professionnels soudanais regroupant des médecins, des professeurs et des ingénieurs a appelé à une semaine du soulèvement. 24 personnes sont mortes depuis le début du mouvement, selon un bilan officiel, mais des ONG parlent d'au moins 40 morts. Environ 1000 personnes ont été arrêtées dans différentes localités du pays. M. Béchir a réaffirmé aujourd'hui que son pays était confronté à des problèmes économiques qui ne peuvent pas être résolus par des pillages et des incendies.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, suite à l'annonce du retrait prochain des troupes américaines de Syrie, le secrétaire d'État Mike Pompeo a affirmé ce lundi que des discussions se poursuivent pour la création d'une zone tampon en Syrie afin que la frontière avec la Turquie soit sûre. Mais ces déclarations interviennent alors que le président Trump a menacé la Turquie de la dévaster économiquement si elle s'attaquait aux Kurdes. On fait le point avec Raïssa Girondin.
Une zone tampon pour que la frontière soit sûre pour les Turcs et les Kurdes, c'est la proposition du secrétaire d'État Mike Pompeo à l'issue d'une visite à Riyad. Nous voulons nous assurer que les gens qui ont combattu avec nous contre le groupe État islamique bénéficient de la sécurité et que des terroristes agissant depuis la Syrie ne soient pas capables d'attaquer la Turquie, a-t-il dit à la presse. Des déclarations qui interviennent après le tweet dimanche du président américain. Les États-Unis vont dévaster la Turquie économiquement si elle attaque les Kurdes, a souligné Donald Trump, tout en appelant les Kurdes à ne pas provoquer Ankara. Le président américain a également appelé à la création d'une zone de sécurité de 30 km sans plus de précision sur sa localisation ni sur son financement. Ankara a menacé de lancer une nouvelle offensive contre la milice kurde alliée des États-Unis, mais considérée comme terroriste par la Turquie. De leur côté, les autorités turques invitent Washington à honorer le partenariat avec la Turquie en réaffirmant que ces menaces ne changeront pas sa stratégie.
À noter que la Turquie, qui affirme ne pas être intimidée par les menaces de Donald Trump, précise ne pas être contre la création d'une zone de sécurité d'une trentaine de kilomètres de large. Sachez aussi que le chef du groupe djihadiste Hayat Tahrir al-Sham affirme que son organisation, ex-branche syrienne d'Al-Qaïda, appuie l'idée d'une offensive militaire turque contre les Kurdes dans le nord-est de la Syrie.
Par ailleurs, le secrétaire d'État Mike Pompeo assure avoir obtenu l'engagement des hauts dirigeants saoudiens à ce que les responsables du meurtre de Jamal Khashoggi rendent des comptes. Il a évoqué la poursuite des investigations dans cette affaire qui pèse sur les relations entre les deux alliés. Souvenez-vous, Jamal Khashoggi a été tué le 2 octobre au consulat saoudien à Istanbul.
Ici aux États-Unis, le candidat de Donald Trump au poste de ministre de la Justice, Bill Barr, promet qu'il permettra au procureur spécial enquêtant sur les soupçons de collusion entre l'équipe de campagne du président républicain et Moscou de boucler ses investigations. En tant que ministre de la Justice, il sera amené à superviser les investigations du procureur spécial Robert Mueller et l'opposition démocrate, elle, craint qu'il n'essaie de limiter son enquête.
Les dirigeants de l'Union européenne ont donné un coup de pouce à la première ministre Theresa May dans un ultime effort pour tenter de convaincre les députés britanniques de voter mardi l'accord de Brexit.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
Actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco présentée par Nani Talani.
En Afrique du Sud, les autorités confirment l'existence dans l'extrême nord du pays d'un foyer de fièvre aphteuse visant le bétail dont les exportations ont été suspendues. Une cinquantaine de têtes de bétail ont été diagnostiquées positives dans un district de la province du Limpopo déjà placé en quarantaine. La semaine écoulée, l'impact sur le commerce de bétail a été pour le moins désastreux pour l'Afrique du Sud, dont les exportations annuelles de viande rouge s'élèvent à environ 2 milliards de rands. En Algérie, la Sonatrach, compagnie énergétique nationale, envisage un accord avec Exxon pour créer une co-entreprise avant la fin du premier semestre de 2019. La Sonatrach a déclaré avoir discuté avec 14 entreprises internationales de la création d'une entreprise commune pour le négoce de produits pétroliers et gaziers. Terminons avec les pays de la Méditerranée orientale qui incluent la Libye et l'Égypte qui vont constituer un forum du gaz qui sera basé au Caire. Ce forum a pour objectif la création d'un marché gazier régional qui serve les intérêts de ses membres en assurant l'offre et la demande, en optimisant le développement des ressources, en rationalisant le coût des infrastructures, en proposant des prix compétitifs et en améliorant les relations commerciales.
Présent la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
L'avenir du football mondial se discute demain à Marrakech, au Maroc.
Oui, plus de 80 présidents et secrétaires généraux de fédérations vont prendre part à ce sommet de la FIFA, prévu se tenir du 15 au 17 janvier à Marrakech. Plusieurs sujets feront l'objet de débats. Au micro d'Amine Birouk, notre correspondant à Casablanca, le président de la FIFA revient sur le menu de ce sommet. Écoutons Gianni Infantino.
On va parler de la Coupe du Monde des clubs. D'ailleurs, le Maroc avait hébergé deux éditions de la Coupe du Monde des clubs il y a quelques années. Et on voit qu'il faut faire quelque chose pour l'améliorer. Il faut aussi avoir un œil sur nos associations nationales. Et donc, il faut qu'on parle aussi un petit peu des compétitions pour les équipes nationales. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre du calendrier international pour améliorer la qualité des rencontres et des compétitions au niveau des sélections. En même temps, on discutera aussi de la Coupe du Monde 2022 parce que à partir de 2026, il y aura 48 équipes, comme vous savez bien. Peut-être qu'on arrive déjà à avancer l'échéance et commencer déjà en 2022 avec 48 équipes. On écoutera nos associations pour voir un petit peu ce qu'elles en pensent. Et puis, les autres sujets, c'est le football féminin qui est toujours une priorité pour la FIFA. C'est l'arbitrage, le VAR en particulier. Tous les sujets d'actualité qu'on va débattre ici avec nos fédérations. Non.
C'était donc le président de la FIFA, Gianni Infantino.
Corentin Martins se prolonge avec la Mauritanie.
Oui, le technicien français a apposé sa signature pour un nouveau bail de 2 ans. Arrivé en 2014, Corentin Martins a réussi l'exploit de qualifier la Mauritanie pour sa première phase finale de CAN cette année en Égypte. C'est la deuxième fois qu'il prolonge son contrat à la tête des Mourabitounes après janvier 2017.
En Europe, le Classico Real Barcelone se jouera le 2 mars.
Et oui, l'annonce a été faite par Javier Tebas, président de la Liga. Le match le plus suivi au monde entre le Real Madrid et le FC Barcelone se jouera le samedi 2 mars à 20h45 temps universel. Au match aller, le Barça avait humilié 5-1 son rival madrilène, défaite à la suite de laquelle l'ex-entraîneur du Real, Rulén Lopetegui, a été limogé et remplacé par Santiago Solari. Les Blaugrana, 43 points, occupent la première place de la Liga et comptent 10 points d'avance sur le Real Madrid, 4e, avec 33 points à la fin de la phase aller.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Abdourahmane Dia et Morgane Guiriette, toujours en votre compagnie. On passe maintenant au dossier du jour.
Dans l'extrême nord du Tchad, des combats meurtriers ont opposé des rebelles tchadiens à des rebelles soudanais ce week-end sur le site aurifère de Kouribougoudi. Les rebelles tchadiens du Conseil de commandement militaire pour le salut de la République affirment avoir été attaqués par les rebelles soudanais du mouvement pour la justice et l'égalité. Le MJE, une rébellion venue du Soudan et proche du régime du président Idriss Déby Itno, originaire de l'Est frontalier avec le Soudan. Sur le bilan de ces affrontements, Idriss Fall a joint dans le sud libyen Mahamat Ali, président de la Renaissance du mouvement pour la démocratie et le développement au Tchad.
Le combat entre les rebelles soudanais de Toroboro et le Conseil de commandement pour le salut de la République. Les rebelles de Toroboro, c'est des alliés du régime Déby, donc il y a un problème. C'est ça que les rebelles de cette nature ont attaqué, ont pris en biscate et pris par Idriss à ce moment, il y a maintenant donc invité par Idriss Déby. Donc il y a eu 67 morts et plusieurs voitures détruites, des armes anti-aériennes et anti-blindées détruites. Ils ont aussi plusieurs prisonniers en ce moment à Kouribougoudi. Ils ont fait une grande perte de Toroboro soudanais. Donc ils veulent rentrer au Tchad pour aller faire tomber Omar al-Béchir au Soudan.
Qu'est-ce qui a causé ces affrontements alors?
Bon, ces affrontements, cette MFR connaît déjà ces rebelles. Ils ont en Libye, ils veulent toujours faire le même jeu. Quand Idriss Déby a des problèmes, il intervient en Tchad. S'il y a un problème en Libye, il intervient en Tchad. Donc il faut des comportements des rebelles, des mercenaires. Ce n'est pas des rebelles, ce n'est pas des révolutionnaires.
Par ailleurs, vous avez signalé qu'il y a maintenant une scission au sein du Conseil de commandement militaire dans lequel vous étiez membre.
Bon, nous, le 7 janvier, on a quitté le mouvement pour fonder un autre mouvement avec plusieurs cadres. Donc on a organisé un congrès extraordinaire. À l'issue de ce congrès, donc nous, on a décidé de créer le RMDD, la Renaissance du mouvement pour la démocratie et le développement en ville contre la lutte pour apporter un changement au Tchad. Donc nous avons aussi décidé de mettre en place un comité qui a pour mission de préparer un dialogue avec l'équipe des partis politiques et la société civile.
Qu'est-ce qui est la base de cette scission? Quels sont vos désaccords avec le Conseil de commandement militaire?
Depuis qu'on est venu, nous, on a une vision, c'est-à-dire nous, on a mis en un mouvement politico-militaire. Donc, il y a une vision, donc une idéologie. Donc, cette idéologie, quoi, nous, on veut, c'est-à-dire, il y a une situation, la malgestion, la corruption, nous, on veut changer ce comportement par un système démocratique. On n'est pas compris avec quelques cadres de ce mouvement. Pourquoi nous, on a dit, donc, on va faire un autre mouvement pour continuer la lutte.
C'était Mahamat Ali, président de la Renaissance du mouvement pour la démocratie et le développement au Tchad.
Afrique, Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Des réactions à Kinshasa après l'appel de la SADC à recompter les voix de la présidentielle du 30 décembre dernier, d'une part, et à la formation par toutes les parties prenantes d'un gouvernement d'union nationale, d'autre part. La majorité de la classe politique congolaise, comme les personnes interrogées dans la capitale, préfère plutôt s'en remettre à la Cour constitutionnelle. Reportage de Thierry Kambouni de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
À la coalition Lamuka, on est catégorique. Pas de gouvernement d'union nationale tant que la vérité des urnes ne sera pas rétablie. Steve Kivuata est porte-parole du candidat Martin Fayulu.
Nous ne pouvons pas faire une coalition sur le pied de la violation de l'expression du peuple congolais, de la violation de la vérité des urnes telle que exprimée le 30 décembre 2018. Il ne sera jamais question, tant que la vérité des urnes n'a pas éclaté, que la coalition Lamuka soit dans dans un gouvernement d'union nationale.
Au Front commun pour le Congo, on s'en remet plutôt à la justice pour régler le contentieux électoral. Ferdinand Kambere, cadre du FCC, juge irréaliste la proposition de la SADC.
Quand ils viennent d'un observateur électoral du niveau international, je crois que ça sera recueilli par la Cour. Mais la Cour, s'il y a recomptage à faire, il doit y avoir une demande. Et une demande doit venir plutôt soit du candidat, soit du parti politique qui a postulé. Parce que pour agir en justice dans notre pays, il faut avoir un intérêt. Chez nous, la loi ne reconnaît pas à un observateur de saisir directement la Cour pour obtenir ce recomptage-là.
Jolino Makelele, le porte-parole adjoint de Cap pour le changement de Félix Tshisekedi, affirme quant à lui que cette proposition est une fausse nouvelle qui ne vient pas de la SADC.
Nous, au niveau de CASH, dont je suis le co-porte-parole, je peux vous dire que cette nouvelle nous a beaucoup surpris. Et d'ailleurs, après qu'elle nous ait surpris désagréablement, nous avons pris les contacts nécessaires qui nous ont fait comprendre que c'était une fausse nouvelle. Et donc, nous avons eu, pour ne pas nous départir de l'obligation de réserve qui doit être la nôtre en pareille circonstance, nous avons eu un ministre des Affaires étrangères d'un pays très proche, membre de l'ESPADEC, qui a dit qu'ils n'ont jamais dit des choses comme celle-là.
Les Kinois interrogés à ce sujet estiment que malgré la proposition de la SADC, seule la Cour constitutionnelle a compétence en la matière.
Comme il y a déjà contestation, il faut que la Cour constitutionnelle puisse trancher. Et s'il y a compte de voix et que Martin Fayulu renverser la situation, ça serait une bonne chose. Et si cette opération faisait en sorte que la réussite restait camp de Félix Tshisekedi, ça serait aussi une bonne chose.
Donc, la proposition de recompter les voix soutient la thèse du candidat malheureux Martin Fayulu. Moi, je crois que la SADC souhaite embraser de plus en plus RDC.
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Cap sur le Cameroun maintenant. Le secteur des transports est miné par la corruption. C'est ce que révèlent les résultats de l'indice de perception de la corruption publié par la CONAC, la Commission nationale anticorruption. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Juntap.
La corruption au Cameroun dans les transports se trouve à tous les niveaux.
Patrice Samen est le président du syndicat national des conducteurs de transport urbain, interurbain et routier du Cameroun. Syndicaliste depuis une quinzaine d'années, Patrice Samen se dit indigné de voir à ciel ouvert la corruption dans le secteur de transport au Cameroun.
Les autorités qui délivrent les titres de transport, c'est un banditisme à ciel ouvert où vous allez payer une licence de transport, on vous donne un dépôt, vous roulez avec deux ans. Tout ça, l'argent entre dans la poche des individus.
Colinx de Fosoken est lui aussi syndicaliste. Il a été aux avant-postes lors de deux importantes grèves des conducteurs de taxi au Cameroun contre les tracasseries policières.
La plupart des gens de voyage n'ont pas d'agrément. Comment les gens de voyage peuvent ne pas avoir d'agrément et avoir pignon sur rue, si ce n'est la corruption qui est à l'origine de leur création?
Herman a passé l'an dernier l'examen de permis de conduire à Yaoundé. Il dit avoir fait face à la corruption.
Quand il fallait aller faire la pratique, je m'avais d'abord présenté à un monsieur qui allait me coacher et à qui il fallait remettre une somme de 10 000 francs. Les listes sont sorties, mon nom n'est pas sorti. Quelqu'un se présente pour me dire que si mon permis, j'en ai besoin, que je lui donne une somme de 30 000 francs. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui.
Les usagers des administrations de transport se plaignent aussi de la corruption dans la délivrance des titres de transport, notamment à la délégation départementale des transports à Yaoundé. Georges témoigne sur ce qu'il a vécu en ces lieux.
Il y a eu une erreur sur mon prénom au niveau de ma carte grise. Et lorsque je m'en vais pour que l'on rectifie cela, la dame qui me reçoit ce jour me dit que monsieur, ça peut être rectifié, mais pour que cela soit fait, il faudra me donner 10 000 francs. Ou alors vous rentrez avec vos documents, vous roulez avec ça comme ça.
Après moult dénonciations, un ancien responsable de cette administration a été relevé de ses fonctions pour des faits de corruption avérés. Mais le mal y perdure, selon Alfred Etom, coordonnateur de la stratégie de lutte contre la corruption à la Commission nationale anticorruption.
Vous trouvez des gens qui n'appartiennent pas à cette administration et qui se proposent de vous rendre service. Et le plus curieux, c'est que quand vous vous adressez directement à l'administration, le service que vous sollicitez, on va vous le rendre un mois après. Alors qu'avec ces intermédiaires-là, les mêmes responsables vous rendent le service deux ou trois jours après. C'est un phénomène que nous continuons de combattre. Je peux vous assurer que beaucoup aujourd'hui copient en prison.
En 2017, l'indice de perception de la corruption dans ce département ministériel a connu une légère baisse, passant de 6,84 points en 2010 à 6,34 sur 10. de quoi accentuer encore le travail de la Commission nationale anticorruption. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
En Guinée, les propos de l'ambassadeur russe à l'occasion de la cérémonie de présentation des vœux au président Alpha Condé font l'objet d'une controverse. Le diplomate accrédité à Conakry a semblé suggérer une modification de la constitution qui ouvrirait la voie à un troisième mandat pour Alpha Condé, dont le deuxième et dernier mandat, selon la constitution, doit s'achever en 2020. Le point avec notre correspondant sur place, Zakaria Camara.
Le discours d'Alexandre Bekatié au palais Sirtureya a provoqué un tollé quand le doyen des diplomates dit au président Condé que les constitutions ne sont ni dogme, ni Bible, ni Coran, quand il insiste en ajoutant que les constitutions s'adaptent à la réalité, mais les réalités ne s'adaptent pas aux constitutions. Ses propos passent mal auprès des politiques. L'opposant et ancien premier ministre Sidi Touré rappelle le diplomate russe au respect de la loi guinéenne.
J'estime que chacun doit rester dans son rôle. Les ambassadeurs peuvent avoir une perception de principe sur la situation en Guinée. D'autres l'ont fait. Je n'interdis pas ce que la Russie dise qu'ils veulent, qu'ils pensent que la Guinée doit prendre un chemin différent, mais nous avons des textes fondamentaux ici. J'estime que le minimum pour un ambassadeur, c'est de respecter les textes fondamentaux qui constituent la base de la démocratie en République Guinée. Dans ce texte-là, les choses sont claires. Donc j'estime qu'il n'y a pas le rôle d'un ambassadeur de venir nous faire la leçon sur cela.
Le diplomate russe avait-il l'intention de faire la leçon aux Guinéens? Une chose est sûre, Alexandre Bregadze a dit tout son soutien au président Condé. « Nous vous soutenons, monsieur le président, la Guinée a besoin de vous », déclare-t-il. Des mots, des phrases qui ont fait écho jusque dans les rues de la capitale.
Ce qu'il a fait, c'est trop gauche. Parce qu'un ambassadeur d'un autre pays ne peut pas se mêler dans une affaire politique d'un autre pays, surtout comme la Guinée. Dans la démocratie, cela n'est pas exigé que le président doit changer de la constitution pour se faire plaisir d'avoir un troisième mandat.
Il faut juste rappeler à l'ambassadeur de la Russie que la Russie n'est pas la Guinée. Nos constitutions ne sont pas les mêmes. Et vouloir dire que le président peut changer la constitution en sa faveur n'est pas démocrate. La Guinée, c'est un pays démocratique qui respecte sa constitution.
Le diplomate russe a conclu son discours par un dicton russe. On ne change pas les chevaux au passage du cours d'une rivière. Et Alexandre Bregadze de faire remarquer que la Guinée est actuellement à ce passage. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Et c'est la fin de cette édition. À la mise en onde de Georges Léonard Sagno, à la présentation Abdourahman Dia et Morgane Guerriec.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Clédou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.